Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir pour cette émission Club de la Presse. Nous sommes au lundi 30 septembre 2024 et c'est le dernier jour même d'ailleurs de ce mois de septembre. Il sonne 11h, passé de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Et merci à vous tous qui nous choisissez alors pour ce premier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte alors de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitog et Tomega est à la mise en onde. Jérôme Dakoutia sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations les plus fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Amiro, Radio La Paix à Takpame, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Également nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Le Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays. Et d'ailleurs, et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Uriel Enyang, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les confrères ici présents, bonjour à tous les Togolais et bonne semaine de travail à tous.
Pas à pas, l'année s'achemine vers sa fin.
Oui, bon. Nous sommes en train de boucler le 9e mois et demain commence le 10e mois de l'année. Donc, on tend vers la fin et on ne peut que souhaiter du bien pour tous les Togolais, pour tous les citoyens de la CEDEAO. Et souhaiter que chacun réfléchisse dans le bon sens parce que la vie, il ne sert à rien pour les quelques minutes qu'on a sur Terre. Qu'on s'entre-déchire pour des inutilités. Donc, vivement que pour les trois mois restants, les trois mois, c'est ça, non? Les trois mois restants, chacun de nous puisse communier, faire la paix avec son Dieu et rendre service à la société.
D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Jacques Dakouti aussi est là. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM. Je voudrais saluer nos compatriotes qui nous écoutent actuellement sûrement dans les bureaux, ceux qui sont dans les au bord de leur taxi, ceux qui sont sûrement également à l'hôpital, dans les cliniques. Je voudrais saluer chacun et chacune. Et ceux qui sont malades, leur souhaiter prompte guérison. Saluer particulièrement l'adjudant Tchakoura, sûrement qui est en train de nous écouter quelque part. Je voudrais le saluer, saluer tout le personnel de ce ministère. Et comme tu l'as dit, il reste seulement que quelques mois pour la fin de l'année. Et ma prière est que Dieu soit avec chacun et chacune d'entre nous. Nos allers-retours, que la protection de Dieu soit sur nous.
D'accord. Didier Soba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés en studio et bonjour aux Togolais qui nous écoutent précisément à Dakar.
Précisément à Dakar, je ne sais pas pourquoi vous nous saluez précisément des gens de Dakar.
Non, bah, je suis citoyen de la CEDEAO et donc je pourrais dire Togolais qui nous écoutent à Bamako, bon, puisqu'on est panafricain, donc... Je crois que Dakar a été la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Donc, voilà.
Et pour compléter, nous avons des frères et sœurs étudiants dans les universités sénégalaises. J'ai un neveu à l'université Tchekanta Diop du Sénégal. Donc il a raison de saluer les Togolais qui sont au Sénégal.
Forte communauté. Alors vous avez fait sortir un mot, et c'est le panafricanisme. Oui, justement, et vous dites ces derniers temps, on n'est plus alors panafricain. Et c'est ce qui se remarque. Est-ce que c'est peut-être un choix que nous avons fait d'être alors panafricain?
Non, en réalité, on ne devrait pas faire le choix d'être panafricain. On est né panafricain. comment on peut dire, est-ce qu'on a fait le choix d'être Togolais? Je ne crois pas qu'on a fait le choix d'être Togolais. On est né Togolais. On a constaté qu'on est né Togolais. Donc, on a également constaté qu'on est panafricain. Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, partout où nous allons sur la terre africaine, nous devrons nous sentir chez nous. Et donc, à partir de ce moment-là, le reste des mots, des mouvements et des organisations, ça reste juste... pour moi de faire valoir, mais naturellement et de façon innée, on est panafricain, on est togolais, on est africain, c'est ce que je constate.
Je ne sais pas si Gosson Ketomania aussi est panafricain. Gosson, bonjour.
Pascal, je ne répondis pas par bonjour, mais un sombre bonjour.
Ah, mais justement, dans votre voix, ça se constate. C'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière cette obscurité dont vous parlez?
Ce bonjour est adressé d'abord à mes confrères qui étaient à la rencontre hier, rencontre organisée par la CDPA. Ensuite,
c'est la DMP.
La DMP, excusez-moi. Ensuite, mon sombre bonjour aux auditeurs, aux lecteurs et fidèles de liberté, et un sombre bonjour à nos illustres députés.
D'accord, merci beaucoup. Alors, nous commençons cette émission par ce sujet. Tout récemment, il y a le ministre de la Santé qui a fait sortir une note pour exiger des comptes rendus à temps auprès même d'ailleurs des différents directeurs des départements et même aussi alors des centres hospitaliers du Togo. Et déjà, Uriel, vous avez titré sur le sujet « Centre hospitalier, le ministre Daré exige des comptes rendus à temps ». C'est bien ça?
C'est exact, c'est bien ça, c'est une note de service. Je pense qu'il est dans son rôle et conformément aux consignes qu'il avait données lorsque qu'il a pris possession de ce bureau, de ce département ministériel que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et je pense qu'aujourd'hui, il a eu vent de certains faits qui ne lui remontent pas rapidement, qui ne lui sont pas rapidement remontés pour que lui aussi, à son tour, il puisse échanger avec ses collègues en vue de trouver des alternatives, des solutions idoines. Donc, en sortant cette note, ce courrier de service, je pense que c'est tout à fait normal. Vous voyez, il y a beaucoup de situations au niveau de nos centres de formation universitaire, au niveau de nos centres hospitaliers, au niveau des unités de soins périphériques, au niveau des centres préfectoraux et tout ce que vous connaissez. Mais des fois, non seulement l'information n'est pas montée à temps, mais elle n'est même pas remontée. L'information n'est même pas remontée et des situations sont camouflées jusqu'à ce que les victimes ne s'en aillent de l'au-delà. Donc, il va falloir quand même que le ministre Daré Tchin soit très fort parce qu'on connaît comment ça se passe. Si à la suite de cette note de bonne foi, à la suite de cette note qui ne veut que du bien à tous les Togolais, il reçoit des pressions de quelque part et il reçoit de tout ce qu'on ne veut pas de quelque part pour lui dire mais tiens, tu dois obtenir mon aval, tu dois obtenir ceci d'abord avant de sortir là, ça ne pourra pas marcher. Je pense qu'il doit rester très fort, il doit tenir bon et il doit aller jusqu'au bout parce que là, quand on parle du ministère de la Santé, moi toujours, qu'on cite ce ministère-là, j'ai toujours en tête le nom d'un seul ministre qui est passé au niveau de ce département. C'est Mme Suzanne Aho. Oui, on se rappelle, c'est vrai que je n'étais pas encore grand, mais je me rappelle très bien ce que la dame là avait pu faire de sa nature, de sa formation de sociologue, ce qu'elle avait pu rendre comme service à toute la nation togolaise avant de quitter ce département ministériel. Donc, vivement, qu'il aille plus loin. Pourquoi pas ne pas sortir, pourquoi ne pas sortir des sanctions lorsqu'il se trouve qu'au niveau de certains centres hospitaliers, il y a des faits, des actions, des actes inadmissible et que l'information ne soit pas montée. Pourquoi ne pas prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ces gens-là jusqu'à révocation de ceci? Parce que la santé, ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, si ce secteur est défaillant, c'est toute la nation qui est défaillante. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas être à votre micro ici. Et nous devons être bien portants pour pouvoir servir la nation. Donc, on souhaite bonne chance au ministre, beaucoup de courage surtout, beaucoup de courage, qu'il tienne bon.
D'accord. Jacques, c'est vrai qu'en lisant même d'ailleurs, quand on lit, bien sûr, cette note de service à l'ordre du ministre, on comprend tout simplement qu'il y a une défaillance quelque part et le ministre veut corriger cette défaillance.
Non, je crois qu'il faut reconnaître que quand même, depuis que le ministre Tien a pris les rênes du ministère de la Santé. Et avec le Saint-Fort, nous avons constaté quand même qu'il y a eu des évolutions au niveau de certaines choses qui bloquaient. Et quand on prend par exemple le résultat de ce concours qui bloquait depuis un certain temps, et cela a été débloqué. Et aujourd'hui, les résultats ont été proclamés avec le concours du ministre de la fonction publique. Et rendre également hommage effectivement au Saint-Fort qui a fait un travail extraordinaire et laborieux également pour que finalement ces résultats soient proclamés. Et quand le ministre effectivement demande à ce qu'on puisse rendre compte sur le travail qui se fait dans ces centres, il faut reconnaître que c'est parce qu'il y a problème, Pascal. S'il n'y avait pas eu un problème, je ne pense pas qu'il pouvait demander qu'on lui rende compte par rapport aux services rendus. Donc je crois que l'important aujourd'hui, ce que moi je pourrais demander par exemple au ministre, c'est de faire souvent les descentes dans ces hôpitaux pour voir, de toucher du doigt la réalité de ce que ces médecins vivent au quotidien au sein de ces centres-là. Il ne suffit pas seulement de rester au bureau de demander des comptes, mais il faut descendre sur le terrain. Il est médecin et je sais qu'il a pratiqué, il a enseigné également. J'ose croire qu'avec son expérience, il puisse le mettre au service et faire de nos populations. Qu'on ne dise plus aujourd'hui, Pascal, qu'un serpent mordu par un compatriote au nord du pays, qu'on ne puisse pas trouver un vaccin adéquat et que le compatriote meurt. Ça n'a plus de sens. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui que les comptes qu'il est en train de demander, pas seulement sur la gestion peut-être financière, sur ce qui sort, ce qui rentre, mais il est important également qu'il puisse savoir quelle gestion effectivement ceux qu'on a mis à la disposition de ces populations et des compatriotes que nous sommes, comment nous sommes soignés, comment nous sommes traités. Donc c'est ça, c'est le plus important. Vous savez, quelqu'un peut être malade, Pascal, s'il vient par exemple à l'hôpital, même si il n'a pas reçu peut-être une ivaquine ou bien paracétamol, le fait qu'on le reçoive déjà, ça le met à l'aise. Et puis, on dit souvent que la douleur diminue. Donc, vous voyez, donc il est important aujourd'hui, c'est vrai que de demander des comptes, mais le plus important aujourd'hui pour nous, c'est que nous puissions avoir effectivement des soins de qualité, que nous puissions avoir effectivement un personnel disponible, accueillant, pour pouvoir gérer effectivement les hôpitaux que nous avons. Parce que c'est ce que l'État peut faire pour nous. Aujourd'hui, toi et moi, nous n'avons pas les moyens pour prendre un avion lorsque nous sommes malades, pour aller à Paris, aller aux États-Unis, mais le seul moyen que nous avons, c'est le CHU Tourcoing, le CHU Campus, ou soit peut-être les centres périphériques des zones où nous pouvons aller. Donc il est important aujourd'hui que population que nous sommes, que l'État puisse mettre effectivement à notre disposition les soins adéquats pour permettre de nous soigner.
D'accord. Et disais, c'est vrai que quand on parle du secteur de la santé, c'est un secteur où il y a assez de défis à relever. Vous pensez déjà qu'avec cette note de service, le ministre Daré a commencé quelque chose?
Bon, moi, je m'attends beaucoup plus à des actes plutôt qu'à des paroles. Des paroles, nous en sommes désormais habitués. Et comme tu l'as dit, le secteur de la santé, c'est pas un secteur qui nécessite de beaucoup parler ou de sortir des notes de service. C'est un secteur qui nécessite des actes concrets, pour que demain, comme le président Lainé le disait, pour que le Togolais du village d'où je viens, par exemple, quand il rentre dans un hôpital public, puisse se sentir en sécurité, c'est-à-dire que l'accueil même déjà, et puis les premiers soins, déjà lui permettent de commencer à recouvrer sa santé. C'est-à-dire que qu'on restructure les centres de santé publics pour véritablement asseoir l'autorité de l'État et également l'assistance de l'État aux citoyens. Donc je pense fondamentalement que c'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. Donc oui, je n'accuse pas le professeur d'avoir sorti cette note, mais au-delà de cette note, d'ailleurs même qui ne nous situe véritablement pas sur les faits dont il parle, il a juste parlé des faits graves, sans pouvoir les énumérer ou sans vouloir les énumérer.
Il n'y a pas eu de précision.
Oui, il n'y a pas eu de précision. Donc après, ça va être compliqué pour nous, de même si on peut avoir à l'idée les faits dont il voulait parler, il n'a pas donné de précision. Donc quitte à se donner dans les spéculations. Mais l'urgence ici, à l'heure de, comme d'autres disent, je salue un certain nombre de compatriotes qui nous écoutent, l'urgence à l'heure de l'AMU, c'est qu'on puisse avoir des hôpitaux publics à même de pouvoir nous soigner quand nous nous rendons à ces lieux et que, voilà, que le médicament soit là et que les médecins ne se muent pas en pharmaciens à des endroits donnés et que à Sautoubois, à Blita, un peu chez moi, et que pour simple morsure de serpent, qu'on en vienne à perdre des élèves, des parents et d'autres personnes, qu'on ne dise pas que ces produits essentiels manquent cruellement dans nos centres hospitaliers publics. Je ne sais pas s'il est venu, s'il a déjà fait l'état des lieux de la contractualisation pour nous dire véritablement si ça marche ou si ça ne marche pas. Plusieurs, on a écouté déjà plusieurs acteurs du domaine de la santé dire que ça ne marche pas autant qu'on essaye de faire croire. Maintenant, lui qui vient d'arriver nouvellement dans le domaine, il aurait pu nous dire ou faire voilà, un état de lieu pour nous dire voilà la contractualisation, on a commencé depuis 2018-2019, par là. Voilà le bilan après 5 ans, après 6 ans. Voilà les résultats, on va continuer, on ne va pas continuer, on fait autre chose. Voilà, c'est à lui maintenant de nous situer et de démontrer véritablement qu'il a les épaules nécessaires de pouvoir porter ce si grand département.
D'accord. Gossam, alors, déjà, nous le disons que c'est un défi, hein, c'est tout un défi dans le secteur de la santé. Il y a entre-temps cette dénonciation qu'on faisait concernant surtout le mauvais accueil au sein de nos centres hospitaliers. Et donc, tout cela amène aujourd'hui le ministre à fait sortir même d'ailleurs cette note et cette note qui vient recadrer un tout petit peu ce qui concerne surtout le compte rendu à temps.
Tu viens de lâcher un mot, dénonciation. En matière de marché public, ça existe, les dénonciations anonymes pour permettre aux acteurs de la commande publique de limiter la corruption. Maintenant, un communiqué en appelle un autre. Nous, ce matin, c'est plutôt du communiqué du ministère des Armées dont on a parlé. Et comme solution, nous avons préconisé qu'on mette à la disposition des citoyens un numéro vert pour que si un policier, un gendarme ou un militaire se rend coupable de pratiques anormales sur les voies à l'aéroport ou aux frontières, que le citoyen, avec les téléphones portables qui pullulent, qu'il ait la possibilité d'appeler un numéro vert sans donner son identité et qu'il signale les faits dont il est victime. Revenant au secteur de la santé, Didier vient de le dire, nous sommes à l'heure de la contractualisation. Une contractualisation dont on n'a jamais vu le rapport qui atteste effectivement que c'est un bon produit qu'on nous a vendu et qu'on doit le perpétuer. Si à l'heure de la contractualisation, on doit encore en être à sortir des notes de service à l'endroit des pratiquants, je me dis, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Parce que, à supposer qu'un pratiquant ait commis un acte répréhensible, pensez-vous que son supérieur direct osera adresser un rapport fidèle au ministère? Je doute. Par contre, si il pose un acte répréhensible envers un patient ou le patient
ou un parent du patient doit avoir la possibilité de signaler ce dont il est victime. Donc, une note de service, d'accord, mais un moyen pour permettre aux citoyens de mettre sur pied une veille du corps médical serait encore mieux à notre avis. Autrement, les jours et semaines vont passer et cette note de service aussi sera passée par perte et profit.
D'accord. Alors, si tu permets un mot là-dessus, parce que sur la contractualisation, rapidement, on a privatisé un certain nombre de services publics dans les hôpitaux à des entreprises privées. Est-ce que c'est à ces entreprises que le ministre s'adresse ou il s'adresse directement à la direction de ces hôpitaux? Parce que si moi j'ai mon entreprise privée, je gère par exemple la pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio. Et si des choses se passent là-bas, je gère à ma manière du privé. Si je dois licencier quelqu'un qui est fautif, je licencie. Et moi je dois faire le bénéfice et je fais ce que je fais. Est-ce que en tant que privé qui opère dans le sens d'un contrat avec l'État, est-ce que je suis tenu de m'adresser ou de dresser un rapport à la direction ou au ministère de la Santé? Voilà la question qu'on se pose. Donc, il faut que le ministre clarifie les choses dont il parle. Soit il s'adresse directement seulement à la direction de ces hôpitaux ou, je ne sais pas, à quel service et tout ça, et qu'il clarifie véritablement les faits graves dont il parle. Et comme Gosson est en train de l'aider, ce sera encore mieux, un numéro vert ou une plateforme ou quelque chose où les citoyens, à défaut de passer, à défaut de se fier aux rapports qui ne sont toujours pas fidèles, les citoyens peuvent directement envoyer les premiers éléments qui lui permettraient justement de pouvoir se faire sa religion.
Non, il faut, on va essayer de faire la part des choses. Vous savez, le courrier, la note de service du ministre n'a pas dit information pour la presse, hein. En réalité, c'est parce que nous n'avons pas un travail d'échange direct avec les ministres qu'on souffre de cette façon. Lui l'a adressé cette note à l'endroit de ses administrés. Cette note a fuité et la presse en a eu copie et elle a exploité. C'est pourquoi nous souffrons dans nos prises de parole. Si le ministre avait tenu une conférence de presse pour nous faire part de plusieurs situations qui lui ont été remontées et l'ont amené à prendre cette disposition, on comprendrait clairement. Je vois, à mon humble avis, que le ministre aurait déjà fait un travail et pour des raisons d'archivage et pour des raisons de preuve et pour des raisons administratives, il a sorti maintenant une note d'information. Ça, soyez rassurés que ses administrés savent de quoi il est question, mais il n'a pas voulu tenir une rencontre avec la presse pour nous donner les détails. Je vais finir parce que c'est très important. Vous savez, la dernière rencontre qui était prévue entre les membres du gouvernement et la presse, comme ils l'ont initié ces derniers temps avec le nouveau gouvernement, il y a des rencontres périodiques avec les organisations de presse. Le sujet portait sur la santé.
Précisément la mue.
Oui, finalement, pas seulement la mue. Finalement, cette rencontre n'a pas encore eu lieu pour des raisons d'emploi du temps, de disponibilité, d'indisponibilité des membres du gouvernement. Je pense que ce sont des occasions au cours desquelles les journalistes peuvent clairement poser des questions pour comprendre. Sinon, notre rôle, c'est ça qu'on est en train de jouer. Pour finir, Jacques avait évoqué un sujet et Didier a réitéré très important. Mais moi, je vois la chose autrement. Vous voyez, il peut même avoir des médicaments, des vaccins et tout. Mais si le praticien n'est pas formé dans les règles de l'art, si le praticien n'a pas reçu au concours dans les conditions normales, on va apporter un patient, il va dire qu'il n'y a pas de médicaments. Je donne tout simplement l'exemple de cet enfant, l'année surpassée à Sotoubois, qui a été mordu par un serpent. On l'a amené au CHP de Sotoubois vers la nuit. Il dit qu'il n'y a pas le vaccin. Le temps de prendre cet enfant et le conduire à Sokodé, c'était trop tard, il est décédé. Et quand sa hiérarchie était arrivée, on trouve qu'il y a plutôt le vaccin là, au CHP de Sotoubois. Vous voyez ça? Il y a certains qui sont à des postes qui ne leur appartiennent pas. C'est comme ça, il faut le dire. que si ce poste-là lui appartenait, il aurait dû savoir qui a le vaccin à Sotouba pour sauver la vie de cet enfant-là.
D'accord. Ok. On sait que quand on parle de la santé, le plus souvent, il y a une couche également qui a souvent une santé fragile. Je veux bien parler alors des personnes âgées. Demain, 1er octobre, ce serait la journée internationale des personnes âgées. Mais la question est de savoir comment, quelle est la situation des personnes âgées dans notre pays. Pour l'occasion, pour répondre à cette question, nous avons invité M. Alpha et Kofi. Il est directeur exécutif alors de l'ONG Anavi. Monsieur Alpha, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Alors, oui, première question, telle que je posais la question tout de suite, c'est quoi la situation des personnes âgées dans notre pays aujourd'hui?
Merci beaucoup pour la question et je profite pour saluer d'abord ces personnes âgées de par notre pays, le Togo. Revenant à votre question, quelle est la situation exacte aujourd'hui des personnes âgées au Togo? On peut dire que le bilan est mitigé. Mitigé en ce sens que il y a des choses que nous avons entre-temps, quand on parle de dénoncer, mais nous réclamer ou recommander. Il y a eu des évolutions sur certains domaines. Le domaine de la santé, aujourd'hui, on voit un peu, pas vraiment chose, mais on voit un peu avec l'arrivée de l'AMU qui va couvrir. Les personnes âgées pour l'AMU sont des grandes bénéficiaires. Parce que la plupart sont ceux-là qui n'ont pas eu à travailler, qui ne sont même pas couverts par aucune assurance. Voilà, si je parle, je pense à nos pépés, mémés dans les campagnes. Donc, l'AMU va quand même résoudre un peu, un toisson un peu, donc, ce problème. Maintenant, il reste sur le côté du pouvoir d'achat. Voyez-vous, on classe souvent ces personnes âgées parmi les couches les plus vulnérables au Togo. Et donc, la situation dans cet endroit-là, il n'y a rien qui est vraiment fait, à notre avis. Et c'est sur ce domaine-là qu'on exhorte encore. Et sur bien d'autres, on exhorte encore le gouvernement à faire plus. Je dirais aujourd'hui que apparemment les as se sont alignés. Parce que même si nous prenons le thème pour cette année, de la JIPA, la Journée internationale des personnes âgées. Le thème dit « Vieillir dans la dignité ». L'importance de renforcer les systèmes de soins et de soutien pour les personnes âgées dans le monde, et plus particulièrement pour ce qui nous concerne au Togo. Donc, cela appelle les autorités de notre pays à faire plus en matière de santé. Nous ne voulons pas réclamer peut-être, comme on le dit souvent, pour d'autres catégories, une discrimination positive, par ici ou par là. Mais dans certains pays, il y a quand même ces mesures-là qui sont un peu particulières à l'endroit de ces personnes-là.
Quelles sont peut-être ces mesures?
Par exemple, si nous prenons le plan Sésame au Sénégal, c'est un système qui permet à toute personne âgée sénégalaise, lorsque vous arrivez à 60 ans, je rappelle que la personne âgée, c'est tout homme ou femme qui a 60 ans.
On parle du troisième âge.
Troisième âge. Donc vous avez une carte. Et cette carte comporte beaucoup d'avantages. Il y a, par exemple, on peut dire, si on peut, permettez-moi le mot, la discrimination en termes de transport public. Aujourd'hui, nous avons les Sotral qui est une société, je peux dire publique ou parapublique. Donc, dans ces transports-là, il y a une diminution des frais pour ces personnes lorsque vous présentez ces cartes. Dans les hôtels, par exemple, qui appartiennent à l'État ou ici à l'action sociale, dans certaines régions, à l'action sociale, il y a une diminution aussi des frais. Et sur ce point particulier, nous sommes battus pour que ça soit un peu matérialisé et concret. Mais il faut dire que c'est dans certaines régions, oui, certaines structures accueillent les personnes âgées en diminuant les frais, mais d'autres refusent parce qu'ils disent qu'il n'y a pas une note officielle et tout. Et donc, voilà un peu ces avantages de ce plan-là.
Et c'est ces avantages qui ne se trouvent pas pour le moment au Togo.
Au Togo. Et quand nous parlons des personnes âgées, bon, bien souvent les gens regardent ça de loin parce que pour le moment, ils ne sont pas dans cette situation. Mais est-il que la réalité probable que nous tous, on s'achemine vers là? Tout le monde veut vivre longtemps. Et qui veut vivre longtemps, forcément un jour va vieillir.
C'est un souhait que nous faisons même d'ailleurs. Demandons
et
l'envie.
Et donc, c'est pour cela que nous tous, normalement, cette question doit nous préoccuper pour exiger de l'État la mise en place des infrastructures dans le domaine de la santé, du transport. Imaginez, un jour, on se réveille et puis la moitié, ou bien plus que la moitié des Togolais sont des personnes âgées. Et si on fait l'inverse de la courbe, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est les jeunes. Quand nous sortons dans nos rues, c'est les jeunes. On voit plus de jeunes. Voilà. Si demain, c'est les personnes âgées comme ça, on voit. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup à refaire. Le transport. Est-ce que nos transports aujourd'hui sont adaptés? L'habitation, est-ce que c'est vraiment adapté? Et donc, il y a un certain nombre de choses que nous devons commencer par penser. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Et donc, au niveau de l'État, il n'y a pas que le gouvernement. Cela nous regarde, nous aussi, en tant que citoyens. Et quand nous parlons des violences des personnes âgées, ce n'est pas le gouvernement souvent qui viole ou bien qui violente cette personne. C'est nous-mêmes, en tant que citoyens. Et d'où la sensibilisation. Peut-être je reviendrai pour parler de nos activités.
Effectivement, nous allons revenir sur vos activités. Mais toutefois, on va aborder... Jacques, vous avez...
Non, je crois que ce qu'il venait d'évoquer tout à l'heure, reconnaître également que nous avons une part de responsabilité en tant qu'enfants. Parce que nous, il y a certains qui ne vont même pas visiter leurs parents, qui sont au village. Il y en a qui considèrent peut-être leur maman comme des sorcières. Ils ne veulent même pas prendre soin. Ils laissent effectivement leur papa et leur maman également périr dans ces villages. Certains se disent que quand on va là-bas, on ne va plus revenir. Mais je crois qu'après tout, c'est nos mamans, c'est nos parents. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous a mis au monde. Donc il est important qu'on prenne quand même soin de nos parents. Une fois par an, aller saluer les mamans au village et revenir, il n'y a rien à ça. Mais ce que nous constatons aujourd'hui avec le monde, c'est que les gens ont peur. Parce que les gens se disent en allant au village, on ne va plus revenir. Parce qu'on risque au retour de faire un accident ou bien on sera empoisonné. Si bien que les gens ne donnent plus d'importance aux parents, aux vieux, aux personnes âgées.
Mais je crois que nous sommes appelés à vieillir aussi.
Que cette matin.
D'accord. Alors, nous allons aborder le plat chaud de cette émission. Et vous savez très bien, il y a Gosson qui le disait entre-temps lors de sa salutation. Et déjà hier, dimanche, au siège de la CDPA, il y a eu cette rencontre du député Guy Marius Sagnan avec le peuple comme la rencontre même a été dénommée rencontre citoyenne, mais la rencontre aussitôt commencée a été même d'ailleurs a été marquée par une violence qui ne dit pas son nom. Et donc je voudrais quand même qu'ensemble on écoute d'abord ce qui s'est passé avec Madame Brigitte Kafuya-Diamago Johnson, puisque la rencontre a été organisée en collaboration avec la DMP. Je vous propose alors d'écouter Madame Brigitte Kafuya-Diamago Johnson sur cette rencontre.
La réunion a commencé calmement. Guy Marius Sagnan était en train d'expliquer pourquoi il était là, de remercier les Togolais parce qu'ils savent que les Togolais soutiennent son combat. Et donc, tout allait tranquillement. Et juste au moment où il a dit « Chantons l'hymne national togolais », c'est comme si c'était l'élément déclencheur. Ça a déclenché une fureur aussitôt. On a vu les chaises commencer à voler et ils se sont rapprochés de nous, ils se sont jetés sur nous à la table. C'est honteux. C'est honteux. Je ne pensais pas que notre pays, le Togo, en était encore là. Ce qui est grave, les nôtres ont identifié plusieurs éléments, au moins une dizaine d'éléments. Il s'agit de gens qui sont venus du SCRIC et de la DPJ. Les gens ont les noms et donc c'est honteux. Et ce qui était encore curieux, c'est que c'est depuis 10 heures dans la matinée qu'un contingent de la gendarmerie est arrivé pendant que nous étions en train de nous organiser. Et donc, les nôtres les ont interrogés. Ils ont dit, non, soyez sans crainte. Nous sommes là pour votre sécurité. C'est pour vous protéger. Mais curieusement, quand la violence a commencé, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas du tout bougé. Ils ont laissé faire. Et quand ils ont fini de tout détruire et de nous démolir, le contingent a bougé. Ils sont partis. Et d'aucuns parmi nous ont entendu un ordre clair de repli. Et répondant à cet ordre, ils sont partis en ramassant par-ci et par-là les téléphones avec lesquels ils sont partis. Ils ont jeté notre appareil sono dans le puits qui était à côté, nos véhicules caillassés exprès, ils ont fait exprès parce que quand j'ai pu sortir et que j'entrais dans le véhicule, en fait, c'est comme si ils voulaient faire plus mal encore. Heureusement que pas derrière, les gens les ont retenus, de sorte que le grand bloc qu'ils ont soulevé dehors, parce qu'il y a des travaux en ce moment, on est en train de faire des caniveaux, et donc quelqu'un, on les a tirés par derrière, ce qui a amorti le choc, ce qui fait que ils ont cassé le pare-brise, mais je n'ai pas reçu le bloc. Vous savez, tout ce qui se passe là n'entame en rien notre détermination. Parce que le Togo, c'est notre pays. C'est notre pays et c'est nous qui allons le transformer. Le Togo changera, il faut qu'il change. Il faut qu'il change.
Vous venez là d'écouter Madame Brigitte Kafuya-Diamagbo-Johnson, coordinatrice de la DMP et aussi députée à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que avec cette agression, hein, surtout sur ceux qui ont participé à cette rencontre, il y a Guy Marius Sagnin qui a été aussi agressé et nous étions partis même d'ailleurs chez lui au niveau alors de la clinique dans laquelle il était. Il était d'abord en soins intensifs et après tout, ça s'est bien, ça s'est un peu calmé. Il a réussi quand même à nous dire quelques mots. Je vous propose alors de l'écouter.
Je suis choqué et scandalisé et traumatisé, comme tous les Togolais qui étaient présents, mais je ne suis pas surpris. Vous vous rappelez, il y a quelques mois de cela au Parlement de la CEDEAO, je dénonçais la situation au Togo. Et quand je la dénonçais, j'étais loin de savoir que j'en serais victime. Vous avez vu la violence inouïe qui s'est abattue sur des gens qui n'ont commis qu'un seul crime, que celui de rencontrer leur député de la CEDEAO. Depuis quand rencontrer son représentant au Parlement de la CEDEAO est un crime? Des gens du régime de Faure Adema ont payé des nervis pour venir bastonner, pour venir violenter, pour venir agresser et peut-être même assassiner des Togolais, des députés à l'Assemblée nationale du Togo et un député à l'Assemblée au Parlement de la CEDEAO. C'est extrêmement grave, vous ne trouvez pas? Parce que ce que ça signifie, c'est que si on est capable d'agresser un député de la CEDEAO qui a deux immunités, une immunité sénégalaise, une immunité de la CEDEAO, mais qu'est-ce qu'on fait alors aux citoyens togolais? Ce qu'il faut retenir de la violence d'aujourd'hui, c'est que tous les Togolais sont en sursis. Aucun Togolais n'est en sécurité. Parce que quand on bastonne un parlementaire de la CEDEAO qui a une immunité et qui est en session ici au Togo, ça veut dire qu'on peut bastonner tous les Togolais. Ça signifie qu'on bastonne tous les Togolais. C'est la preuve que ce que je disais il y a quelques mois au Parlement de la CEDEAO était vrai. Ah non, ce que vous avez vu, c'est que les nervis qui ont été payés pour saboter notre rencontre citoyenne m'ont frappé comme un ballon de football. Ils ont utilisé des chaises, ils nous ont bastonné avec ces chaises, ils nous ont donné des coups de poing, ils nous ont donné des coups de pied comme si nous étions des ballons de football. Ils n'ont même pas hésité à bastonner la députée togolaise honorable Kafui, qui a l'âge de leur mère. C'est extrêmement grave. Moi, au moins, je suis un homme. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a l'âge de leur mère et qui, en plus, est députée, donc immunité parlementaire. Ils ont levé la main sur elle. Ça ne vous choque pas?
Vous voulez là d'écouter le député Guy Marius Sagnin, qui est en quelque sorte alors en soins intensifs hier, quand nous l'avons bien sûr rencontré. Alors, Gosson? C'est vrai, quand nous avons suivi même la scène hier, c'était vraiment une violence inouïe, comme le dira l'autre. Vous avez titré, hein, vous, au niveau de Liberté, vous avez titré sur le sujet « Le député Guy Marius Sagnin blessé par des miliciens violents à Lomé ». C'est ça.
Bon, tu sais, Pascal, je ne vais pas le cacher, je t'ai envoyé un message hier parce que je ne sais pas si je devrais d'abord venir à l'émission ce matin et en plus me prononcer sur le sujet. Parce que à la fin, toi et moi, nous devons descendre les escaliers, et chacun doit repartir,
de la radio.
Doit être supposé repartir chez lui. Il n'y a pas de garde ou aucun élément dissuasif à l'extérieur. Et même s'il y en a, on sera seul
soit dans nos véhicules, soit sur nos motos.
Ah, c'est un sujet de l'actualité. Nous, en tant que journalistes, on a justement ce rôle alors d'analyser les sujets de l'actualité. Et donc, c'est un sujet de l'actualité.
Pascal, sans encore parler de ce qui est arrivé aux députés, nos confrères qui étaient là hier...
Tout à fait, bien sûr, je voulais en parler.
Nos confrères qui étaient là, moi, je n'ai pas peur de le cacher, ce téléphone qu'on m'a offert et dont je prends tellement soin pour mon travail, on va m'arracher le téléphone et le jeter dans un puits ou dans une rigole comme ça, gratuitement.
Non, mais ça n'a pas été que ça. Il y a le confrère Hyacinthe Bento de Nana FM qui a eu vraiment de coups à la tête et qui est blessé à la tête. Il y a notre confrère Goffrey Appa de ici Lomé qui a été bastonné. Et il y a Yvette Sossou également de la Dépêche et de Canal D qui a été aussi bastonné et c'était devant nous.
Vous pouvez tout énumérer, mais je ferai économie de ce côté. Mais juste pour me demander, et depuis hier, Pascal, parce que demain, les 113, peut-être 112, si Brigitte Adamabo n'y va pas, seront dans le 71 à Kara pour la session. Nuitée, tout, perdième et autres. Mais à ce jour, ni le président de l'Assemblée nationale, ni le bureau, encore moins l'ensemble des députés, n'ont encore sorti de notes pour se désolidariser de, dois-je dire, cette barbarie. Ce qui me surprend maintenant, ou me convainc que aujourd'hui, soit vous sollicitez une rencontre ou une conférence de presse auprès du ministre de l'administration. Donc vous devez prier pour qu'il l'interdise. Parce que là, ce n'est pas interdit. Et bien que ce soit en un lieu fermé, regarde ce qui s'est passé. Moi, j'ai déjà une cicatrice derrière suite à une agression. Je ne sais pas si c'est des voleurs ou je ne sais qui. Mais suppose que je sois là hier. Pascal, parce que ça peut arriver à un moment où, toi aussi, tu voudras démontrer que tu es un homme avant tout. Donc, je laisserai facilement ma vie, puisqu'il n'y a pas eu de secours. Et pourtant, il y a la gendarmerie qui s'y sillonnait.
Non, mais la gendarmerie était là. On a vu même un pick-up de la gendarmerie devant le CDPA.
Finalement, quelle valeur donner au communiqué, à la note de service que le chef d'état-major général des armées a sorti pour recadrer militaires, gendarmes et policiers.
D'accord.
Franchement, je suis outré.
D'accord, vous êtes outré, ça se comprend. Alors, Didier Assoba, est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé hier au siège de la CDPA?
Avec quel mot peut-on expliquer une telle situation? Vous savez, depuis hier soir, j'ai pris du temps pour écouter, nombreuses plateformes. J'ai lu beaucoup de commentaires de Togolais, j'ai écouté beaucoup de commentaires, beaucoup de choses, et je pense que même nos frères qui ont posé l'acte d'hier là ne sont pas contents ce matin. Je suis véritablement convaincu que ils ne sont pas contents ce matin. Même si certains sont contents, il y a beaucoup de Togolais qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'on a fait hier là et qui véritablement se sont réveillés ce matin la mort dans l'âme. Parce que
tendance politique confondue.
Oui, je connais beaucoup de gens de partis au pouvoir qui n'auraient jamais approuvé ce qui s'est passé hier, qui ne sont pas pour ce qui s'est passé hier. Et donc on se demande, est-ce qu'on est encore à ce stade, encore à ce niveau? Et moi, je me posais une petite question à moi-même hier. Est-ce que le chef de l'État est au courant de ça? Est-ce que ceux qui ont organisé ça lui ont fait valider? Et je suis sûr que jamais il n'est pas au courant et il ne pourrait jamais valider ça. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On n'a pas dit que M. Sagnan était venu armé donner des armes aux opposants togolais pour déstabiliser le pouvoir. On n'a jamais dit qu'il était venu ici en commando ou en Terminator pour venir tuer qui que ce soit. On a dit une rencontre dans un endroit clos pour laquelle les autorités togolaises ont été informées. et qui ont d'ailleurs déployé, ma foi, selon toutes les informations et les faits, la gendarmerie pour sécuriser l'endroit, pour s'assurer que tout allait bien. Et on se demande d'où sont venus les gens, les gros bras qui ont surgi, d'où ils étaient venus pour naturellement faire ce qu'ils ont fait là. Et la grande surprise, c'est cela. C'est ce que tout le monde relève. C'est ce que tu relevais d'ailleurs, qu'on avait la force publique qui était là. Qui, normalement, quand nous voyons la force publique, nous devons être rassurés de ce que notre sécurité est au moins assurée. Et là, si des gendarmes étaient là en spectateur, ne faisaient rien, ça amène encore à se poser beaucoup de questions. Et ça ne peut pas nous permettre d'expliquer ce qui s'est passé. Et voilà, on savait que il peut y avoir des gens qui sont fans du chef de l'État, qui sont voilà, qui auraient pu ne pas accepter les propos ou les choses que M. Sagna avait dites il y a quelques semaines à Abuja. C'est leur droit. Mais je pense que ce n'est pas seulement sur nous ou notre pays que Guy Maris Sagna a parlé. Il a parlé sur la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Il était déjà en Côte d'Ivoire. Et on a vu que lui qui avait failli en venir aux mains avec la députée ivoirienne à Diaratou, on a vu, ils se sont d'ailleurs plutôt parlé, ils ont pris une photo, les choses se sont calmées là-bas. Et les Ivoiriens, qui auraient pu faire avant, nous n'ont pas fait ça. Pourquoi nous n'avons pas pris exemple sur voilà, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la tolérance, le civisme, la tolérance, le calme et l'hospitalité qui caractérise le Togolais. Pourquoi nous n'avons pas pu offrir cela en termes de fair play pour nous qui, aujourd'hui, notre pays a une posture. Je parlais de panafricanisme, ma prise de parole. C'était à cela que je faisais allusion. Notre pays aujourd'hui est un pays voilà, qui affiche sa tendance panafricanisme. Nous acceptons tous les Africains chez nous ici et nous avons d'ailleurs nous sommes d'ailleurs en cours d'organisation d'un sommet panafricain ici chez nous et nous avons pris beaucoup d'initiatives ici dans la sous-région pour la paix, la sécurité, la concorde, mais laisser faire une telle chose
sur un Sénégalais.
Non, pas
que les Togolais vivent au Sénégal.
Pas seulement forcément un Sénégalais, mais sur n'importe qui. Alors, député, je ne sais pas, au Parlement de la CDAO, si c'est Togolais, je ne parle pas des opposants parce que eux, on peut les trimballer comme on en a l'habitude, mais nous avons au moins un invité chez nous, on pourrait au moins lui montrer une autre face de nous. Et cette hospitalité qui caractérise le Togolais, on aurait pu l'offrir et laisser passer ces choses. Monsieur Sagna, il quitte Lomé, je pense, cette fin de semaine à l'issue des travaux du Parlement de la CDAO. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire hier à l'issue de cette conférence-là qui va faire quitter le chef de l'État au pouvoir, qui va faire voilà, que UNIR va perdre la majorité de 100, combien, 108,
va plus se lever
108 députés et que, bon, voilà, le pays va s'arrêter de fonctionner. Je pense que des gens parlent, les gens, voilà, c'était une occasion pour lui de parler aux citoyens togolais ou voilà de la sous-région. Et moi, je pense fondamentalement que, je pense d'ailleurs que le ministère sénégalais des Affaires étrangères nous demande une enquête ici au Togo. On attend de voir quelle va être la réaction officielle sur ce pas-là, pour que l'enquête nous situe véritablement qui sont les auteurs. Déjà qu'on cite des noms et que la DMP est en train d'indexer un certain nombre de services, en raison encore de plus qu'on puisse faire mener une enquête en bonne et due forme et qu'on situe les responsabilités et qu'on identifie les auteurs. Parce que certains disent que c'était les militants même de la DMP. Bon, si, moi je ne veux pas prendre parti, mais une enquête indépendante, une enquête judiciaire peut-être, permettra de situer les responsabilités et je déplore, quels que soient les auteurs de ce qui s'est passé hier là, c'est assez dommage que notre pays soit encore à ce niveau. Et je crois que c'est l'image et l'image de tout le Togo. On ne parle pas de partis politiques dans les médias un peu partout à l'international, on ne parle pas de partis politiques. On parle du Togo que le député a été agressé au Togo. Et là, c'est tous les Togolais qui ramassent ce matin cette honte-là et c'est inadmissible. Ah,
mais tout à fait. Alors, Jacques, c'est vrai que quand on parle du député Sagnan, on connaît sa position, mais faire une rencontre citoyenne à Lomé, en quoi cela peut-elle déranger?
J'ai vu un peu les images de la salle. On se croirait dans un bar, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez, c'est-à-dire que c'est une salle où il n'y avait pas beaucoup de personnes. Je ne vois pas en quoi on peut aller agresser quelqu'un dans une petite salle où il n'y avait pas beaucoup de personnes. Je crois qu'aujourd'hui, moi je voulais interpeller principalement le ministre de la Sécurité. Vous savez, ça fait la seconde fois. On a enlevé dans ce pays un Béninois, où finalement, c'est à la veille qu'on a su ce qui s'est passé, que le Béninois a été enlevé. On n'a pas su ce qui s'est passé. La seconde fois, on vient encore d'agresser, on a agressé des gens, au vu et au su, comme on l'a dit, qu'il y avait des gendarmes. Moi, je n'étais pas sur les lieux, mais ceux qui ont été sur les lieux ont dit qu'ils ont vu une fourgonnette.
Mais justement, moi,
les gendarmes, c'est ce que les gens ont dit.
Oui.
Moi, je n'ai pas été. Aujourd'hui, il faut interpeller le colonel Madjouluba. Ça, c'est sa responsabilité. Supposons qu'il y avait mort d'homme là-bas hier. Qu'est-ce qu'on serait dans ce pays ce matin? Qu'on puisse dire qu'on a tué, par exemple, Sagna ou bien on a tué Kafu Adjamagou. Mais ça ne serait pas bon pour l'image de notre pays. Même l'agression, là, ce n'est pas du tout bon. Moi, je serais, par exemple, à la place du ministre de la Sécurité ce matin. J'aurais au moins sorti un communiqué pour dire, bon, OK, nous avons constaté, mais les jours à venir, nous ouvrons une enquête, nous allons donner, par exemple, les résultats. Mais rien n'a été dit. Le procureur de la République, personne n'a ouvert une enquête. Je crois que ce n'est pas quand même bon pour notre pays. Je ne sais pas si vous avez lu le communiqué de Aliountine sur l'agression. Vous voyez comment il a chuté? Il a dit qu'il demande aux Sénégalais de ne pas agresser aucun Togolais au Sénégal. Parce que ce n'est pas les Togolais, ce n'est pas tous les Togolais qui ont été auteurs de l'agression de Sagna. Vous voyez que ce n'est pas bien. Quand les gens veulent poser des actes, il faut toujours penser à d'autres. Le Togo n'est pas seulement le Togo. On voyage, on sort. Nous avons nos compatriotes un peu partout. Il y a la diaspora. Et que dire à ce siècle qu'on frappe quelqu'un à cause de ses positions encore sur le sol togolais, et on sait ce que le président de la République, Faure Gnassingbé, est en train de faire pour effectivement ramener la paix au niveau des pays, on a vu même sa déclaration, au niveau de l'ONU, et qu'on dise aujourd'hui que ce sont pays où les gens sont en train d'agresser un député. Comme Didier le disait entre nous, qu'est-ce que Sagna allait dire là-bas hier, et qu'on se lève, on dise non, que le Togo, il n'y a plus un Togolais, que le Togo a disparu. Je ne vois pas. Donc franchement, j'invite une fois encore le procureur de la République, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'administration territoriale. Il faudrait qu'il fasse effectivement le point. Parce que je ne pense pas que la marche, le rassemblement n'était pas interdit.
Non.
Voilà, ce n'était pas. Donc, du moment où ce n'était pas interdit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les gens-là se sont infiltrés dans cette salle et ils ont eu le temps de faire autant de mal? Et l'autre aspect, comment vous allez retirer le matériel didactique des gens? Vous ne l'avez pas brisé, vous les jetez dans le puits. On sent que les gens-là étaient venus effectivement pour faire du mal. S'ils avaient jeté le matériel, on allait quand même les retrouver.
Le matériel de sonorisation.
Voilà. Mais j'étais dans le puits. Mais vous voyez que c'était quand même pour faire mal. Une fois encore, moi je demande aux compatriotes togolais de se calmer dans cette histoire. Il faut se dire que ça ne fait pas honneur à nous tous sur ce qui s'est passé. Mais mettons bas la terre. Demandons à nos autorités d'ouvrir une enquête et qu'on situe effectivement les responsabilités de ceux qui ont posé cet acte.
D'accord. Uriel, est-ce que vous arrivez à comprendre que jusqu'à présent, le procureur de la République n'est même pas sorti à travers peut-être un communiqué, ou même d'ailleurs le ministre de la Sécurité, hein, pour nous situer sur ce qui s'est passé concrètement?
Non, parce qu'il y a plusieurs personnalités, plusieurs responsables, que ce soit responsable physique ou moral. Si on veut parler en termes de réaction pour contester ou déplorer, ou si vous voulez condamner cet acte, c'est tout le Togo, hein, c'est tout le Togo. Moi j'ai dit déjà, c'est l'indice de développement humain qui a reçu un coup très dur. Ça c'est l'indice de développement humain. Et puis ça peut même entraîner la chute de notre économie. Lorsque les investisseurs apprennent qu'on bat des honorables députés député sénégalais, député du Parlement de la CEDEAO, bastonné, torturé, ensanglanté dans un pays, je doute fort que les investisseurs puissent avoir la paix tranquille pour s'y installer. C'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que c'est une explication des faits actuels. Ces actes ne sont pas de nature à favoriser un climat de paix et d'investissement. L'acte se serait produit au Bénin, que je serais un milliardaire, que j'allais jurer même de ne jamais implanter une usine ou de m'installer là-bas. Ça, nous sommes clairs. Nous sommes clairs. Vous voyez, il y a des partis au Togo ici qui ne se développent jamais. C'est parce que les gens ont peur d'aller entreprendre là-bas. Parce qu'ils se disent, oh là-bas là, oh, mon digestion va saccager. C'est la même chose. Vous savez, le Togo a pris de belles initiatives. Même il y a des services de lutte contre l'extrémisme violent aujourd'hui. Alors, c'est l'occasion que moi, je puisse suggérer à l'autorité de déployer la grande partie de ces services-là qui ont été affectés à l'intérieur du pays parce qu'on s'est dit que c'est dans ces zones libérées qu'il y a plus de l'extrémisme violent. Ce qui s'est passé est comparable à un extrémisme violent. Donc, nous avons besoin de ces services-là dans le Grand Lomé pour nous protéger. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça sera une autre personne. Alors, certains ont parlé du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, les autres ont parlé du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et tout ça. Mais n'oublions pas, la présidente du Parlement de la CEDEAO est une Togolaise. Et ils sont en session actuellement à Lomé. Alors, nous allons quand même faire attention à tout moment de préserver l'image du pays. Lomé, dit-on souvent, c'est la capitale des rencontres africaines. Est-ce que c'est moi qui l'invente ici? C'est-à-dire que soignons l'image de notre pays. Moi, je ne sais pas d'où vient cet acte. Mais c'est un acte à condamner, à tout prix. Je ne suis pas en train de voir quelqu'un de ce pays promouvoir cet acte-là pour son bien. Moi, je ne suis pas en train de voir. Parce que quand, des fois, vous lisez sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à dire que... Voyez, même nous, les journalistes, ça veut dire que s'il y avait quelqu'un qui devrait se plaindre le plus souvent à la justice, torturer les journalistes partout, c'est le chef de l'État. Hein? Parce que tout ce que nous faisons là, même sur les réseaux sociaux là, mais le monsieur s'en fout. En tout cas, depuis que moi je suis journaliste, je n'ai jamais assisté à un procès parce que le chef de l'État s'est plaint contre un journaliste. À moins que je me trompe, on va me dire le contraire. Mais les gens se lèvent, ils prennent des initiatives bidons sans penser à l'image de toute la nation. Aujourd'hui, nous payons tous les prix. Pascal, si vous vous retrouvez demain au Gabon pour un événement qui réunit les journalistes, tes confrères vont t'en parler. Ah, moi, j'ai peur d'aller à Lomé. Hein. Il ne faut pas que j'aille dire un seul mot là-bas et on va m'ensanglanter. Oui, et tu auras honte. Tu auras honte. Donc, Didier l'a bien expliqué. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on a vu les députés là-bas avec les... Mais ils ne sont pas arrivés à ce point. Qu'est-ce qui fait qu'on ne pouvait pas... Moi, j'ai dit, il fallait même interdire cette rencontre, que ça serait mieux. Si on l'avait interdit, donc, les députés ne se retrouveraient pas avec des gens, et il n'y aurait pas de kung-fu, il n'y aurait pas de blessés, il n'y aurait pas des journalistes dont le matériel serait confisqué, jeté dans les puits.
Et eux-mêmes bastonnés.
Bastonnés. J'ai vu un confrère dont le pantalon, les chemises complètement déchirées. Mmh. Donc, si on avait interdit la rencontre, moi je dis que ça serait mieux. Mmh. Que d'autoriser et d'en arriver là, ce n'est pas une bonne chose. Mmh.
Mais Gosson, quand on voit la situation aujourd'hui, et c'est vrai qu'il y a Guy Sagna, le député Guy Sagna, qui le disait, que mais c'est comme si les Togolais ne sont pas en sécurité. Alors, est-ce qu'on a peut-être cette impression?
Tu sais, par rapport à l'organisation des manifestations, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un régime de déclaration et non d'autorisation. Je précise que ce n'est pas une marche.
Non, une rencontre citoyenne.
Ce n'est même une rencontre citoyenne, pas même sur une place publique.
Non. dans un lieu fermé, Pascal. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai mal dormi hier. C'est vrai, je n'y étais pas. Mais le Togo ne se résume pas à ma petite personne. J'ai des confrères. Donc, je serais venu ce matin, on allait m'apprendre que, Pascal, toi l'animateur, tu es dans le courant. Parce que tu as été violemment bastonné. Quand même, qu'est-ce que nous avons fait pour que certains continuent de développer cet instinct grégaire? À ce jour, je le répète encore, ce qui m'attriste, Hulé l'a dit, à la tête de la CEDEAO, le Parlement, c'est une Togolaise. Et demain, notre Assemblée nationale va se retrouver à Accra. Donc, en ce moment, c'est sûr qu'ils sont en train de préparer leurs valises. Mais pas un seul communiqué pour condamner. C'est vrai que à l'Assemblée nationale, l'opposition est réduite à sa portion congrue. Mais d'abord, Madame Adjango, c'est un être humain. C'est une vie. Et donc, si on ne peut pas afficher de solidarité envers son prochain, je veux juste rappeler aux uns et aux autres les propos de Martin Müller. Quand ils étaient venus chercher les catholiques, il n'a pas bougé parce qu'il n'est pas catholique. Ils étaient venus chercher d'autres, il n'a pas bougé. Jusqu'au jour où ils sont venus le chercher, il n'y avait plus personne pour le défendre. Méfions-nous parce que nos actes peuvent nous rattraper. Surtout qu'on a eu à identifier des gens. Je veux croire, et j'ai toutes les raisons de le croire, que il y aura une main lourde qui doit sévir pour décourager de pareil. Parce qu'à ce jour, Pascal, ni toi ni moi, nous sommes en sécurité.
Didier, déjà, oui, est-ce que vraiment les Togolais sont en sécurité? Moi, ce que j'ai vu hier, cette violence-là, je me suis dit quand même que ça doit être révolu, quoi. Avec une barbarie qui ne disait même pas son nom.
Non, si on était encore avant 2005, ou encore plusieurs années en arrière...
Même ça, on ne peut pas comprendre.
Ce n'était déjà même pas tolérable. Mais bon, oui, on pourrait encore dire, ok, on était encore dans des situations pas du tout stables. Mais dire qu'en 2024, nous avons encore de ces groupes organisés, identifiés et connus, à qui des gens peuvent faire appel pour régler son compte à quelqu'un, au vu et au su de la force publique, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Aujourd'hui, c'est peut-être les opposants et M. Sagna. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Ou demain, ça peut virer à autre chose. Parce que Uriel disait quelque chose que les gens ne voient pas. Nous sommes à une saison où nous luttons contre l'extrémisme violent et qui facilement vire au terrorisme. On ne va pas aller dans les détails. Jacques n'a pas voulu peut-être en parler. Mais ce qui se passe dans la partie septentrionale, notamment dans Pendjal et tout ça, n'est pas très 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 loin de ce qu'on a vécu hier à Lomé. N'est pas très très loin parce que des gens font des descentes parce qu'ils reprocheraient des choses à des gens. Ils viennent faire, ils égorger des gens, ils partent. Hier, si on a égorgé des gens. Hier, si des gens mouraient. Ce qu'on a vu hier là, peut-être les gens peuvent banaliser, dire non, oui, Sagna a parlé sur notre président, on lui a réglé son compte. D'accord. Mais si d'autres font pareil, et avant qu'on ne s'en rende compte que ce ne sont pas des gens qu'on peut contrôler, ils disparaissent, ils franchissent les frontières, ils partent. Que deviendra notre pays? Un Haïti ou quelque chose d'autre? Personne ne souhaite qu'on en arrive là et qu'on sorte de nos maisons la peur dans le ventre parce que n'importe qui peut nous tabasser à tout moment, n'importe qui peut tomber sur nous à tout moment et qu'on ne peut, voilà, même devant des gendarmes et personne ne dira mot. C'est assez regrettable et dommage pour notre pays. Il faut quand même que notre gouvernement se saisisse de cette affaire, qu'on laisse la politique derrière et qu'on traite cette histoire de violence et qu'on traite réellement cette histoire une fois pour de bon, pour laver l'image du Togo vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis du Sénégal et vis-à-vis des Togolais eux-mêmes. Parce qu'on a tabassé quand même un député togolais aussi. Hein.
Jacques. Non, moi, mon problème aujourd'hui, c'est, vous savez, tout en lutte pour qu'il y ait une confiance entre les populations et les forces de l'ordre et de sécurité. Qu'on dise que hier, Pascal, comme vous l'avez dit, qu'il y avait des gendarmes qui étaient postés à ce niveau avec une fourgonnette et que les gens viennent tabasser des gens, blesser les gens, en présence effectivement de ces gendarmes.
Tout à fait.
Et selon la déclaration de Madame Adjamabo Johnson, qui disait qu'il y avait également la présence des gens du SCRIC, qui avait également la présence des gens de la DPJ, comme elle le disait.
Non, mais elle parlait plutôt alors des auteurs.
C'est ce que j'ai dit. Justement, c'est ce que j'ai dit. Il faudrait aujourd'hui, comme je l'avais dit tout au début, que le ministère de la Sécurité et le procureur général de la République, il est important que ces personnes-là s'impliquent pour identifier. Sûrement que on a dit qu'on a retiré également les appareils des gens, qu'on a jetés dans les puits.
Oui, des confrères journalistes.
Voilà. Bien sûr. Est-ce que c'était pour délibérément
pour effacer
les preuves? Pourquoi ils l'ont fait? S'ils sont conscients de l'acte qu'ils étaient en train de poser, si c'était un bon acte, pourquoi retirer les portables des gens et les jeter dans les puits? Et l'autre aspect.
Il y a certains portables même qui ont été emportés.
Voilà.
Hein, beaucoup,
et autre aspect, on a parlé tout à l'heure de notre sœur Memunatu. Aujourd'hui, c'est elle qui est à la tête de ce parlement de la CEDEAO. Dites-nous, quel sera maintenant son parcours demain? Quand elle va retourner à Abuja, qu'est-ce qu'elle va dire? Quel rapport elle va donner à ses collègues députés de l'agression, effectivement, faite sur Sanya? Vous voyez, le Togo, on a les opportunités pour avancer. Au même moment, nous constatons qu'il y a des gens qui sont là également, qui veulent tirer également le pays là vers le bas. Donc, c'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui insistent qu'un rapport, une enquête soit diligentée. Laissez dans cette affaire et qu'on cherche effectivement les auteurs. Parce qu'on ne mène pas les enquêtes, comment on va trouver les auteurs? Comment vous voulez qu'on fasse?
Attendez, s'il vous plaît.
Comment on peut faire pour condamner?
Je ne sais pas. Nous avons essayé de relater les faits. Quand nous parlons d'enquête là, s'il vous plaît, on va être franc envers nous-mêmes. Je n'étais pas sur les lieux. Mais on dit que les éléments qui ont orchestré la violence le faisaient lorsqu'il y avait les gendarmes à côté.
Tout à fait. Et à la fin même d'ailleurs, je vous apporte cette information. Voilà. À la fin, ils disent, il y a quelqu'un qui a dit replions et automatiquement ils sont partis.
Alors, mais c'est ça. Est-ce que vous parlez de quelle enquête, s'il vous plaît? Il y avait la gendarmerie à côté. Si c'est confirmé qu'il y avait la gendarmerie, alors la gendarmerie a préféré ne pas les arrêter et a préféré une enquête ultérieure. Entre les arrêter et avoir une preuve directe et une enquête qui viendra poser des questions à l'infini.
Ce serait une perte de temps, c'est ça?
Non seulement une perte de temps, mais sans résultat.
Non, vous savez, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Comme vous l'avez si bien dit, qu'il y avait les gendarmes. Et les gendarmes ont observé, ils n'ont rien fait. Ça, c'est au ministre maintenant de la Sécurité de déterminer qu'est-ce qui s'est passé. J'ai envoyé mes éléments là-bas. Voilà, pourquoi les gendarmes n'ont pas intervenu?
La population de nous situer.
Il faut le faire.
Merci beaucoup. Je sais que le sujet est très passionnant, mais nous allons en arrêter là et donner aussi la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à entrer en ligne pour parler surtout alors de ce sujet. Alors, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Bonjour, Nestor. Comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord. Allez-y.
Oui. Je salue et mes respects à tous les journalistes qui interviennent sur le plateau du Club de la Presse. Moi, je suis religieusement le Club de la Presse. La semaine passée, seulement, il y a un journaliste qui a dit, c'est pas pour se moquer, mais les rassemblements de l'opposition ne donnent pas plus de 15 personnes. Moi, je pense qu'il faut arrêter ce narratif. Vivement que le vivre ensemble prenne le dessus sur la violence. Merci, Canal FM.
Merci beaucoup, Nestor, pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, c'est Johannes.
C'est Johannes.
Oui.
Allez-y.
Vous savez, quand on va continuer, quand il y aura ce genre de trucs, en fait, moi je me dis que quand j'écoute l'émission, j'ai envie de dire qu'il n'y a que les journalistes qui sont surpris. Hein. Nous, les citoyens, on n'est pas surpris. C'est-à-dire, nous savons dans quel pays nous sommes. Mais c'est parfois les analystes, certains analystes qui tentent de dire que le Togo évolue, le Togo a une situation démocratique, et à cette chose-là. C'est dans, il faut, c'est-à-dire, on dit, c'est dans certaines situations qu'il faut savoir si la situation démocratique du Togo avance ou pas. C'est pas en période d'accalmie où on interdit à l'opposition de faire des rassemblements et le jour où l'opposition arrive à faire quelque chose, une manifestation, il y a d'autres personnes qui arrivent et puis on dit l'opposition n'a aucune force, tout ça là. Vous voyez, c'est même pas la peine de se demander si Forn Yansigbe est au courant ou pas. Se poser cette question, c'est-à-dire, moi je me dis que c'est de la littérature inutile. C'est lorsqu'il y a ces genres de choses qui se passent et on se dit sûrement que Forn Yansigbe n'est pas au courant, tout ça là. C'est justement avec ces analyses-là que ces genres de choses vont continuer à se passer. Parce que je ne pense pas que ce genre de choses peut se passer dans ce pays sans qu'il ne soit au courant. Merci.
Merci beaucoup, Johannes, pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Gado.
Oui, bonjour à tout le monde. Vous savez, mon ami Gosse m'a conseillé un jour de ne pas s'énerver parce qu'il y a la ABC. Aujourd'hui, je lui demande aussi de ne pas s'énerver. Ça va aller. Bon, vous savez, est-ce que dans la section de public, peut-être c'est autorisé hein, de taper un député? Est-ce qu'on a bien lu la section de public? Bon, si moi je suis l'État sénégalais, j'avais demandé à l'État togolais de faire tout pour arrêter ces gens-là et les foutre en prison. Et chaque matin, je vais demander à mon ambassadeur d'aller voir s'ils sont réellement en prison chaque matin. Jusqu'à ce qu'ils terminent leur peine. Parce que nous sommes au Togo. Merci, bonne journée.
Merci, M. Gado, pour votre intervention. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, chez vous?
Oh, c'est l'évangéliste Senghor.
Hein? Oui, l'évangéliste Senghor. Allez-y.
Oui, je salue tout le plateau, sans oublier mon frère Jacques Dafouti. Bon, vous savez, moi, ce que je voudrais dire, dans un pays normal, le ministre de la Sécurité doit démissionner. Comment est-ce que vraiment on peut taper un député sénégalais au Togo, ce qui veut dire qu'on a tapé Diomaye Faye et Sanko. Aujourd'hui, quand Pierre Damado va au Sénégal, on la tape. On a tapé M. Forn Yansigbe. On a tapé tout le Togo. Je voudrais ici que tous ceux qui ont posé cet acte-là, je suis un homme de Dieu. Vous savez, tout ce que nous faisons, il y a des retours. À cause de être là, vous allez agir d'une manière. Moi, je prie tout à l'heure, je demande que tous ceux qui ont causé ça, que Dieu puisse les punir sévèrement. Pourquoi aujourd'hui, le président Forn Yansigbe, il est quelque part, c'est lui qui va venir la paix dans le pays. Et aujourd'hui, on dit qu'on a tapé un député. Mais c'est grave. Donc, c'est vrai, il y a quelqu'un qui disait que les enquêtes n'aboutissent pas. Mais je lance un appel au procureur de faire tout possible. Et s'il a la crainte de Dieu, pour que ces gens-là puissent être démantelés. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Senghor. Allô?
Bonjour.
Bonjour, Basile.
Ah, salut le plateau.
Oui, salut.
Vous avez fait une très belle analyse aujourd'hui. Bon, mais quand vous demandez si le président est au courant, non, moi je ne peux même pas dire que, même s'il n'est pas au courant, là, il ne dit pas le pays. Il ne dirige pas le pays. Si des gens peuvent se lever, à lui tabasser, caillasser, tuer qui ils veulent, et lui ne. Et peu de surcroît, les gendarmes sont à côté. Mais là, nous sommes où? Nous sommes où? Il faut cesser aussi de dire que quand les opposants vont faire, il n'y aura pas deux personnes qui vont aller là-bas. Vous voyez, le député là, malgré qu'il était enfant, il dit que ce que vous colportez, que ce n'est pas bon. Je vous dis que le journaliste togolais est quelque chose dans ce que nous faisons. C'est ça qu'ils appellent un rapport de force. C'est ça qu'ils appellent un rapport de force. Je vous remercie.
D'accord, merci Basile. Je pense que nous avons quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le journaliste.
Oui, votre nom c'est
Ouyao Dignité.
Ah, c'est M. Ouyao.
Oui.
Allez-y.
Je dis courage à tous ceux qui sont blessés là-bas. Courage surtout à eux. Mais je ne sais pas si le député sénégalais, il est venu comment ici. C'est-à-dire qu'il était fait par l'invitation. Est-ce que les autorités du Togo savaient qu'il serait dans les quatre murs?
Ça, c'est clair. Il doit être là parce qu'ils ont une session ici à Lomé.
D'accord.
Oui.
Donc, si c'est comme ça, bon, s'ils savent ça et puis ils ont amené une sécurité, tout ça là, on a dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que vous le savez? Donc, le président même avait dit en tout temps que tous nous sommes ici là, on sait qui fait quoi, et un truc comme ça. Donc, vraiment, l'acte là, c'est à condamner. Enfin, franchement dit. Le président, je sais qu'il n'est pas au courant de ça. C'est les hommes qui font des ailes. Donc, ils veulent qu'on a dit que c'est eux qui travaillent dans ce pays. Ils n'ont qu'à se rappeler que derrière les hommes aussi avaient travaillé, qu'aujourd'hui ils se sont retrouvés à quelque part. Donc, tout le monde n'a qu'à se méfier. Donc, tout ça là, donc, si l'État togolais sait que ce député doit être dans les quatre murs, vraiment, on peut dire à quelque part que les gendarmes sont au courant de tout ce qui s'est passé. Ils n'ont qu'à aller à Koundiaré montrer leurs muscles. C'est là-bas qu'il y a les terroristes. Ils n'ont qu'à aller là-bas. C'est là-bas qu'il y a le problème. Ils ne tiennent pas au Togo, ils ne tiennent pas à Lomé. Ils n'ont qu'à aller à Koundiaré. Comment ils sont pour rentrer ici, frapper les hommes. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ils n'ont qu'à aller à Koundiaré. C'est Koundiaré que nous voulons qu'ils n'ont qu'à aller.
D'accord.
Merci. Bonne émission à vous.
Merci beaucoup, M. Uyaro. Je pense que M. Uyaro, il est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Gosson.
Je ne serai pas long, pas du tout. En tant que père, et que j'apprenne que mon enfant de bas âge a fumé de la cigarette. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne pose l'acte, je ne savais pas. Mais quand il a posé l'acte, on m'a informé, j'ai su. Cet enfant regrettera d'être mon fils. Parce que après que j'aurai appris ça là, la correction que je vais lui donner, il ne sera pas prêt de l'oublier. Donc, à ceux qui disent que c'est sûr que le chef de l'État n'est pas au courant, je vais bien leur accorder le bénéfice du doute. Mais désormais, il est informé. Donc, j'attends de voir les mesures qu'il prendra à l'encontre de ces égarés.
D'accord. Je veux croire que ça va être les dernières manifestations de ces gens, de ces individus, et que la transition en cours travaille également dans ce sens pour que finalement, quand on basculera dans un autre régime, on bascule définitivement dans un régime pacifique, et que la violence soit complètement derrière nous, et que nous, Togolais, autant que nous sommes, quelles que soient les couleurs politiques des uns des autres, que tout le monde puisse se sentir en sécurité dans le nouveau Togo qu'on nous présente. On nous a dit qu'on est en train de construire un État fort. Véritablement, je veux croire que l'État fort, c'est pas un État qui laisse faire de ce genre de choses. Qu'on soit véritablement en sécurité, que quand tu rentres chez toi, tu sais que tu es en sécurité et tu vois un agent de sécurité, tu es sûr qu'il est là plutôt pour assurer ta sécurité et non pour laisser faire. Je crois fondamentalement que les autorités ont besoin de situer l'opinion sur ce qui s'est passé et même si les enquêtes n'aboutissent pas, au moins pour une fois, qu'une enquête aboutisse au Togo.
D'accord. Jacques ?
Non, je crois que le chef de l'État avait dit quelque chose à Takpamé, plus jamais ça sur le sol togolais. Nous osons croire que ce qui s'est passé le dimanche, hier, qu'on puisse vraiment chercher les auteurs et les retrouver. Ça serait vraiment une bonne chose qu'on peut rendre effectivement au Togo, aux Togolais que nous sommes. C'est important pour notre image, important également pour nos compatriotes qui sont dans la diaspora. Parce que ça ne veut pas du tout honneur à notre pays que ces images-là circulent sur les réseaux sociaux par rapport à notre pays.
D'accord. Uriel,
je réitère ma position et j'en appelle à la responsabilité de tous. On peut tout commettre, on peut s'amuser entre nous ici. Nous savons comment nous jouons entre nous ici au Togo, mais lorsqu'il y a un étranger parmi nous, de grâce, faisons tout pour protéger son intégrité. C'est très important. L'étranger qui arrive chez nous, il repart avec une image. Vous savez, en politique de marketing, on dit, lorsque vous entrez dans un supermarché, ou à l'hôpital, on vous reçoit bien, vous sortez, vous en parlez à au moins 8 personnes.
Mais quand vous entrez, on vous accueille mal, vous sortez, vous en parlez à au moins 22 personnes. Vous avez compris ça?
Oui.
Ça veut dire qu'en parlant à 22 personnes, les 22 personnes, ça, c'est plus grand. Ils vont en parler à d'autres. Et au fur et à mesure, vous détruisez l'image de la structure qui vous a mal reçu. Donc, on va faire extrêmement attention pour protéger tout le monde.
Monsieur Afan, nous terminons avec vous. Oui. Votre mot de la fin, oui, aussi des activités que vous organisez rapidement.
Merci beaucoup.
Une minute.
Merci. Oui, merci. Le samedi, nous organisons une marche pour la santé. Donc, qui va partir de notre siège et aboutir donc aussi au siège. Et après, il y aura un pique-nique et des causeries débats.
Entre des personnes âgées.
Entre des personnes âgées. Mais les jeunes aussi sont invités parce qu'il faut. C'est la solidarité. Oui, oui, oui. Oui, monsieur. Non, 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 non. Nous sommes sûrs que, en tout cas, par la grâce de Dieu, que ça va bien se passer. Nous profitons pour faire un clin d'œil à certains de nos partenaires qui soutiennent cette cause, la LCT, la Poste, l'INAM. Et aussi, voilà, le gouvernement via le ministère de la Santé.
De la Santé. Merci beaucoup, monsieur Alpha, d'être passé dans cette émission. Uriel, merci à toi d'être passé. Jacques, merci. Didier, merci à toi. Godson, merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés aussi. Michel Tomega a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Oussou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.